Jeudi 29 janvier s'est déroulée à Saint-Guillaume la pose de la première pierre de la nouvelle école de musique. Elle sera située juste à côté de la cité scolaire. C'est un projet porté par la communauté de communes du Pays de Sillé et son président Gérard Galpin, également maire de la ville.
C'est toujours important de poser une première pierre, ça veut dire qu'on évolue, il y a des projets. Hein, et ce qui est important, c'est que les projets là, ont été menés sur deux mandats et il y a une continuité. Les élus changent, mais il y a une continuité dans les projets. Et c'est important de pouvoir faire ça, surtout à côté de la cité scolaire. Comme on l'a rappelé, ça renforce la cité scolaire de ses activités. Et l'école de musique, j'espère qu'il y aura une coopération entre la cité scolaire et l'école de musique, des nouveaux projets qui vont naître, vu que c'est à proximité de l'école de musique.
Une école de musique d'un coût total de 950 000 euros, avec le soutien du conseil régional des Pays de la Loire, du conseil général de la Sarthe, et avec le concours d'un programme européen leader. C'est important pour le territoire, et pas seulement sur le pays de Sillé, comme le souligne Fabienne Labrette-Ménager, vice-présidente du Conseil Général de la Sarthe.
Je peux vous dire qu'en tout cas, ça pérennise en effet la pratique musicale sur un territoire, et ça permet aussi de développer des partenariats avec d'autres territoires, et pourquoi pas de faire des chorales ensemble, de faire des ensembles musicaux ensemble. C'est ce qu'on fait avec Ancine, par exemple, Fresnes et Ancine Fier. Et donc nous, ici, aujourd'hui, on intervient à Sillé-Guillaume dans le cadre des TAP pour les petits. Donc voilà, donc on est très content que les collègues de Sillé aient décidé de construire cette école de musique. C'est très important pour un territoire. On est un territoire rural, mais avec une belle pratique artistique. Donc on le voit ici, on le voit également sur Fresnes avec l'école de cirque. Il y a des choses quand même qui se sont faites. Et l'idée, c'est vraiment de pérenniser à un moment donné sur le milieu rural. Bah, la pratique, on l'a entendu tout à l'heure avec la pratique aussi de musiques actuelles. On a des jeunes, on a des moins jeunes, on a des gens qui ont envie d'exercer leur art sur un territoire. Il faut qu'on continue à nous pouvoir leur donner les outils qui permettent de rester sur nos territoires.
Pour Olivier Biencourt, vice-président de la région, il était important d'être là.
La région est à côté de tous les territoires quand ils ont des projets comme l'école de musique qui est portée par la communauté de communes du Pays de Sillé. Je le dis, il y a un outil pour ça, il s'appelle le contrat de territoire et il nous permet, à partir d'une dotation équilibrée, d'être présent partout, du nord Mayenne au sud Vendée, du centre d'Angers à la banlieue de Nantes. Quand un territoire a un projet, qu'on en partage les objectifs, et là on en partage forcément les objectifs puisque c'est la diffusion des pratiques culturelles en milieu rural, la région est là, et donc par ma présence aujourd'hui, je symbolise cette volonté qu'a le président Oxiette de permettre ces développements.
Justement sur le fonctionnement, en fait, Madame Labrette-Ménager soulignait qu'il fallait évidemment payer les professeurs, il y en a 10 en tout. Hein. Il faut être pérenne dans cette action, pas seulement dans la construction d'un lieu, mais il faut évidemment que ce lieu fonctionne dans le temps, dans la durée. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Qui sont les collectivités qui peuvent aider?
Chacun ses compétences. Et là, en effet, c'est la communauté de communes qui porte qui porte l'équipement, qui, dans son fonctionnement, on aura à suivre le coût principal. Mais d'ailleurs, il faut déjà souligner, et donc la région n'intervient pas à ce niveau-là, pas plus à Sillé qu'ailleurs, mais par contre, il faut souligner d'ailleurs qu'à Sillé, j'ai l'impression, on voit partout en région, sur les écoles de musique, monter une réflexion sur l'intercommunalité, passer de structures municipales à des structures intercommunales, justement dans une logique de mutualisation. J'ai l'impression que Sillé est en avance, puisqu'on voit qu'on a là un projet où la communauté de communes porte le projet.
Pour une école de musique, c'est important d'avoir de beaux locaux. C'est également important d'avoir des instruments de musique. La députée Françoise Dubois a ainsi participé au projet en utilisant sa réserve parlementaire pour acheter du matériel musical.
Je vais aider dans le fonctionnement, j'y tenais beaucoup parce que c'est une demande qui m'avait été faite l'année dernière. J'apporte ma petite pierre, si j'ose dire, à l'édifice en finançant de l'achat de matériel, d'instruments de musique de qualité, de façon à ce que les enfants fassent un apprentissage vraiment de qualité auprès de leurs professeurs. C'est du matériel qui coûte cher, oui. En général.
Une école de musique, c'est important au moment où la situation économique n'est pas très bonne. C'est plus facile finalement de construire un lieu d'expression de la musique que de faire venir une entreprise qui crée de l'emploi.
On peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Hein. Entre construire une usine ou faire venir une entreprise, c'est un petit peu compliqué en ce moment, effectivement. Mais construire une école de musique, c'est un lien que l'on va créer avec la population, avec les jeunes, pour leur donner l'envie de faire autre chose que de traîner dans la rue. Si on veut pas qu'ils traînent dans la rue, il faut leur proposer des activités. Et c'est ce que sait bien faire la communauté de communes, donc quand elle a fait ce choix. Donc on propose des activités à ces jeunes et des activités qui leur permettent de communiquer entre eux. Et je le disais aussi tout à l'heure, la musique pour moi c'est un langage universel. Donc on peut se déplacer avec son instrument, sauf si c'est un piano bien sûr, mais on peut se déplacer avec son instrument et pouvoir communiquer avec n'importe quel pays d'Europe ou même au-delà. Pour pouvoir prendre du plaisir ensemble et jouer de la musique.
La nouvelle école de musique intercommunale du Pays de Sillé devrait être livrée cet été et les premières notes, les premières mélodies s'y feront entendre dès la rentrée en septembre 2015.
Et votre radio locale, c'est sur le 97.9 FM.
Bonjour, nous sommes Nicolas Quentin, élève de 5MB au collège Paul Scarron de Sillé-le-Guillaume. Nous allons vous présenter une émission sur le dopage dans le cadre d'un travail d'itinéraire de découverte. Nous allons aborder différents aspects de ce thème en illustrant de faits réels et de témoignages vécus.
France, Laurent Jalabert, accusé de dopage, l'ancien champion cycliste français a eu, selon l'équipe.fr, recours à l'EPO sur le Tour de France 1998. Éric Boyer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien manager de l'équipe Cofidis. D'abord, Jalabert dopé, ça vous étonne ?
C'est surprenant, mais c'est surtout très triste. Laurent, il a traversé le cyclisme des années 98. Il a donc eu à un moment donné une rencontre avec un staff médical, avec une organisation médicale. Si on l'écoute, il dit qu'il a fait confiance aux médecins de ses équipes. Il a peut-être fait une erreur de leur faire confiance. Aujourd'hui, on s'en rend compte. En tout cas, il leur a fait confiance et il aurait peut-être dû être beaucoup plus vigilant que ce qu'il a été.
Un mot de la défense de Laurent Jalabert, plutôt étonnante. Écoutez, on en parle juste après.
La possibilité que ça puisse être vrai, en revanche, on m'en a jamais parlé. Quand j'ai été auditionné au Sénat, ça n'a jamais été évoqué. Au contraire, quand ils ont parlé de ces documents-là, ils ont clairement dit que ça ne me concernait pas. Pour l'instant, j'en prends plein la figure, ça c'est sûr. Il faut tenir le choc et puis j'attends d'avoir des informations pour peut-être plus précises, pour savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir peut-être me défendre un jour.
À la défense pour l'instant embarrassée, un petit peu alambiquée, c'est du viringue presque.
Oh, c'est pas le même vocabulaire. Tout de même, Laurent a conscience de l'époque qu'il a traversée, avec énormément de problèmes. Bon, il ne veut pas y croire finalement à ce qu'on lui démontre, en tout cas ce que tente la Commission sénatoriale de lui démontrer. Il ne veut pas y croire, il attend plus d'informations.
C'était l'extrait d'une interview d'Éric Boyer, ancien manager de l'équipe Cofidis, l'année 1998 qui est évoquée dans cette interview est celle de l'affaire Festina, où l'équipe du même nom avait été exclue du Tour de France. Jalabert dopé à l'insu de son plein gré, comme un certain Richard Viereng en son temps.
Voilà, son transition tennis avec une nouvelle victoire d'Amélie Mauresmo hier à l'US Open, pardon. Ça fait plaisir, vous revenez en forme, Amélie.
Bah oui, je me suis entraîné fort, je maîtrise mes fondamentaux, puis j'ai retrouvé mon mental.
Arrêtez, c'en est trop, Patrick, par en avant.
Ah, Richard, non. Enfin, vous n'allez pas intervenir chaque fois qu'on invite un sportif, quand même.
Si, laissez ce monsieur tranquille. L'haltérophilie est un sport propre. Cessez de tout salir.
Richard, Amélie joue au tennis.
Ah oui, quand même. Mais à l'insu de ton plein gré ou bien...
Ou bien, Richard.
Une rumeur circule rapidement dans les caravanes du Tour, voulant que Willy Wunk a été dénoncé au service douanier par le directeur sportif d'une équipe concurrente, inquiet de la suprématie grandissante de Festina. Selon Bruno Roussel, directeur sportif de Festina, lorsqu'il apprend que Richard Virenc, la nouvelle arrestation de Veuc, la première question du champion français est « Comment vais-je faire pour mes produits ?» Placé en garde à vue, Willy Veuc avoue 3 jours plus tard et dénonce un dopage organisé et médicalisé au sein de son équipe.
Le 26 mars 1999, Richard Virenc est mis en examen pour complicité d'incitation à l'usage et d'administration de produits dopants. Celui-ci avoue 2 ans après les faits pendant le procès Festina. La justice rend son verdict le 22 décembre 2000. Richard Virenc, seul au coureur page, est relaxé.
Le dopage du cyclisme, on connaît, mais il existe dans bien d'autres sports.
Vous, c'est 100% naturel ?
J'ai du mal, mais oui, c'est naturel, oui.
Pour vous, le dopage, pas question, quoi.
Pas question, non.
Voilà pour le discours. Pourtant, pour se surpasser, certains n'hésitent pas à tricher, à se doper. Pour s'en rendre compte, en caméra cachée, nous nous rendons dans des salles de musculation de banlieue parisienne. Côté vestiaire, décor hors normes. Et bientôt, des confidences sans langue de bois.
Ah, surtout, c'est toi qui vois dans la boule, non ?
Ouais. Tu dirais qu'il y en a un sur deux là, qui
ouais, moi.
Au moins
un sur deux ou un sur trois, oui.
On est parlé des stéros, des trucs comme ça.
Ouais, ça. Ça va être si on peut en trouver ici.
Franchement, là, dans les salles, vous trouverez toujours des gens qui prennent des trucs comme ça.
Ouais.
Ces produits, Mehdi les connaît bien. Dans l'anonymat, il accepte de nous raconter comment il a plongé dans le dopage. À l'époque, il pratique le free fight. Un sport de combat interdit en France où tous les coups sont permis. Il lui faut quelques kilos de muscles supplémentaires.
Après avoir gagné des compétitions amateurs à l'étranger, j'ai commencé à m'intéresser aux stéroïdes et les gens des salles de sport sont venus à moi tout seul, quoi. Alors, en fait, ouais, les salles de sport, c'est le supermarché du dopage. C'est souvent même les profs de sport, les coachs sportifs qui eux-mêmes vendent les produits.
Un trafic alimenté par des réseaux organisés. Le plus souvent, les produits sont achetés sur Internet. Les sites offrant des produits anabolisants se multiplient. L'année dernière, leur nombre a augmenté de 125%. Les doses viennent en majorité d'Asie, notamment de Thaïlande, de Chine et d'Inde, et transitent le plus souvent par la Grèce et l'Europe de l'Est.
On flirte avec la mort constamment, sans s'en rendre compte. Si j'avais pas été encadré, je pense que ouais, j'aurais pu mourir. Ouais. J'aurais pu mourir.
Penchons-nous maintenant sur les différentes techniques de dopage.
Le dopage, qu'est-ce que c'est ?
Le dopage, c'est le moyen d'améliorer les performances physiques et mentales avec des produits interdits.
Qui l'utilise ?
Les grands sportifs en consomment parfois.
Quels sont les risques ?
Les personnes dopées prennent des risques pour leur santé et même pour leur vie.
Pourquoi les sportifs en consomment ?
Les sportifs en consomment pour améliorer leurs performances, pour gagner et aussi pour l'argent.
Qui se dope ?
La plupart du temps, ce sont des sportifs de haut niveau pour qui les victoires sont synonymes de gains d'argent conséquents. Mais les sportifs amateurs peuvent également se doper, simplement pour améliorer leur performance physique.
Depuis quand le dopage existe ?
Le dopage existe depuis l'Antiquité, pendant les Jeux Olympiques. Les athlètes mangeaient des chèvres pour sauter plus haut et du taureau pour lancer plus loin. Mais c'est au cours des Jeux Olympiques modernes, au XXe siècle, que le dopage s'est développé.
Quelles sont les différentes techniques de dopage ?
Amélioration de la morphologie avec les hormones de croissance. Exemple, le dopage massif des nageuses et des haltérophiles des pays de l'Est dans les années 70 et 80. Une amélioration de l'endurance et augmentation de l'oxygénation du sang avec la consommation d'albutamol, un médicament contre l'asthme et l'OPO. C'était l'émission sur le dopage dans le cadre d'un itinéraire de découverte. Nous étions Nicolas
et Quentin
dans la classe de 5e B du collège Paul Escarron. We'll be right back.
Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures.
Bonjour à toutes et à tous, c'est
Camille,
Constant
et Léo qui vous présentent l'émission Petit et Gros Bobo du sport. Dans le cadre de l'itinéraire de découverte des 5e B du collège Paul Scarron de Ciel de Guillaume. Le thème que nous avons choisi est les traumatismes du sport.
Surtout la cheville.
Ouais, c'est très très...
Et c'est surtout en pelote qui reste comme ça derrière. Donc, regardez, là la cheville est complètement brisée, regardez.
Ah oui, c'est possible. Ah,
ça nous rappelle, c'est très compliqué de regarder ce genre d'image, mais c'est probablement l'une des images de la soirée. On va donner la priorité au jeu.
C'était la blessure du joueur de foot de Saint-Étienne, Jérémy Clément, lors d'un match de Ligue 1 de la saison 2012-2013 qui opposait Saint-Étienne à Nice. Mais en fait, Camille, qu'est-ce que les traumatismes du sport ?
Le traumatisme du sport est un trouble qui entraîne une blessure physique ou mentale chez un sportif de haut niveau ou un sportif amateur. Il se produit lors d'une pratique sportive pour diverses raisons : chute, choc, mauvaise posture, impréparation. Elle peut être très grave ou à l'inverse seulement bénigne. C'est une blessure difficile mais pas impossible à soigner.
Forcément avec un homme déçu, Jimmy Vico, forfait pour cette demi-finale du 100 mètres et la suite qui aurait pu être glorieuse pour vous, Jimmy. Votre sentiment, on va faire la moue évidemment.
Bah, mon sentiment est dégoûté. C'est sûr que je suis vraiment dégoûté parce que pendant cette semaine je me suis blessé et j'ai quand même tout fait pour essayer de revenir à mon top niveau. Et alors, le niveau était là, le niveau correct était là et j'aurais préféré courir au moins demi-finale en finale. Quoi. Et là, voilà, je m'arrête là.
C'était pas possible, la douleur était trop forte, le risque était trop important.
Peut-être j'aurais forcé, mais je me suis répété, c'est sûr. Et j'ai pas eu de refaire encore des sauts, des sauts, des sauts pour revenir. Donc, je préfère arrêter maintenant.
Bon, vous avez 22 ans, on dit que vous êtes jeune depuis longtemps déjà. C'est encore une saison pas gâchée, il y a eu un 9,95, un 9,89 non homologué, mais tout de même très encourageant. La suite maintenant, c'est quoi pour vous ?
Voilà, faire des soins encore, me soigner, terminer les soins quand je rentre à Paris. Et ensuite, prendre des vacances, bien souffler et revenir plus fort, quoi.
C'était l'athlète français Jimmy Vico qui réagissait après son abandon de participer à la demi-finale du 100 mètres lors des championnats d'Europe organisés à Zurich en 2014. Souvent aussi, le traumatisme physique entraîne chez le sportif une très grande déception. Un coup au moral, il peut se transformer en traumatisme psychique, surtout si les enjeux sportifs étaient importants et si le chemin de la guérison s'avère longue et difficile. Comme on l'a entendu lors de ces extraits de retransmission sportive, les traumatismes peuvent être plus ou moins graves selon les sports. On a plus de chances de se casser la cheville au foot que sur les pistes d'athlétisme où l'on constate plutôt des claquages ou des déchirures musculaires.
Mais au fait, Constant, peux-tu me citer divers exemples de traumatismes dus au sport ?
Les exemples de blessures, coups avec bleu, plaies, surtout pour les sports de contact comme le rugby ou le handball. Claquage, déchirures musculaires, tendinite, notamment la célèbre tendinite au coude du tennisman qu'on appelle le tennis elbow. Entorse, rupture des ligaments croisés du genou, fracture qu'on remarque beaucoup chez les skieurs, fêlure, luxation, commotion cérébrale avec ou sans perte de connaissance, qui est courante à la boxe, mais aussi au rugby, traumatisme crânien, coma, paraplégie, paralysée des membres inférieurs, tétraplégie, paralysée des membres supérieurs inférieurs. On parle de la blessure au coude du tennisman, celui-ci peut également se blesser aux jambes. Celles-ci sont en effet très sollicitées. Écoutons maintenant un extrait de l'émission Intérieur Sport de Canal+, dont l'équipe a suivi pendant plusieurs mois la rééducation du tennisman français Paul-Henri Mathieu, qui a dû être opéré en mars 2011 d'une ostéomie tibiale pour soigner une arthrose au genou gauche, un arrêt nécessaire de près de 2 ans pour se sportif professionnel.
Moi, je me réveille le matin de ce deuxième tour à Bâle. Et là, je vois que, que c'est pas normal. Voilà, je me lève, mon genou est énorme.
Il m'appelle en sortant d'un cabinet de médecin, en disant que le médecin lui avait dit « Est-ce que vous aimez faire autre chose ? Parce que pour vous, le tennis, c'est fini. » En pleurs.
Je suis allé voir un premier spécialiste à Strasbourg. Et là, effectivement... en deux secondes, il m'a dit, si un jour tu veux rejouer au tennis, voilà, il faut que tu subisses cette opération-là.
Une ostéotomie, c'est-à-dire qu'on coupe l'os et on le redresse pour qu'il avait un peu les jambes comme les culucs et on lui refait des jambes droites. Voilà.
Et là, il me dit, on va me casser la jambe, quoi. Mais je vais rejouer au tennis.
Un couloir gris, des murs fissurés, une jambe cassée. Ce jour-là, Paul-Henri Mathieu est bien loin du tennis. Depuis 15 jours, voilà, son quotidien, ce sont les soins et les examens.
Je savais que ça allait être difficile, que ça allait être long.
Voilà, donc levez un petit peu le talon.
Mais à ce point-là, non.
Ouais, non, ça va, je suis content de... On m'enlève les fils aujourd'hui, donc ça fait du bien. Quand on voit qu'on avance, c'est une première étape. J'ai vu la radio, l'évolution. On sait qu'on est sur le bon choix. Donc ça fait du bien.
Le réveil a été difficile, pas une minute sans avoir mal.
Allez, c'est parti.
Paul-Henri a déjà subi deux opérations des ménisques. Les blessures aussi, il connaît, les abdominaux, une pubalgie. Mais rien à voir avec la violence de cette opération et la souffrance qu'elle entraîne.
On vient de m'enlever les fils, et voilà, sinon j'arrive à contracter aussi, ouais, ça c'est bien, ouais, j'arrive bien à contracter.
Relégué au fin fond du classement ATP pendant cet arrêt forcé, Paul-Henri Mathieu a eu le mérite à 32 ans de ne rien lâcher. Il est revenu sur le terrain de tennis plus motivé que jamais. Son retour le plus fracassant s'est passé dès son retour de blessure lors de Roland-Garros 2012. Alors, de son 61e mondial, il réussit l'immense performance de battre le géant américain John Isner, grand serveur et marathonien des courts tête de série numéro 10. Au bout de 5h41 de jeu acharné, le Français obtient la victoire à la 7e balle de match, 18-16 dans le 5e set. Paul-Henri Mathieu est aujourd'hui placé à la 97e place mondiale. Comme quoi, ce qui ne vous tue pas vous rend force et les traumatismes passés se transforment parfois en victoire.
C'était Petit et Gros Bobo du Sport, une émission réalisée par Léo.
Camille.
Constant.
Dans le cadre d'un itinéraire de découverte de la classe des 5e B du collège Post-Caron de Cyrille.
Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte pour coups et blessures. Tu me plaques comme une affiche au mur. Je porte plainte, je vais le payer, c'est sûr.